101.7 et 107.5, les deux fréquences FM, www.rdwa.fr sur internet, avec Marie-Flore et Cora dans le studio pour ce nouvel épisode de l'Écho de l'espace. Salut à toutes les deux.
Salut, bonjour.
Point d'étape sur ce renouvellement de projet social qui, on le rappelle, rassemble à la fois le SCDD, Espace Social et Culturel du DIY, et puis aussi d'autres structures comme celle que tu représentes, Marie-Flore, donc l'association Val-d'Aucun, qui a elle aussi un EVS à Saint-Julien-en-Quin. Où vous en êtes? Qui commence pour nous tenir un peu au jus? Cora.
D'accord. Donc il y a aussi la Corderie de Pays d'Iwa qui est avec nous dans l'aventure et les Lucioles à Luce-la-Croix-Haute. Donc ça fait 4 structures. On a aussi encore 2 autres espaces de vie sociale avec qui on est en coopération mais qui ne renouvellent pas eux cette année puisqu'ils viennent d'avoir leur agrément. C'est le 101.7 à Lucan-d'Iwa pour le Haut-d'Iwa et le TIS Vallée de la Roanne à Saint-Nazaire-le-Désert. Donc tout ça, ce sont des acteurs qui sont des assos qui sont posés sur le territoire et qui contribuent à l'animation de la vie sociale et à répondre à des besoins sociaux en complément des acteurs du territoire.
Et évidemment, avec toujours une relation avec l'espace social en permanence aussi, c'est-à-dire sur l'ensemble des projets, on peut s'aider, on peut se...
L'enjeu pour nous, c'était ça, c'était de se dire qu'il ne faut pas que chacun travaille dans son coin. L'espace social, il a aussi pas mal de ressources, mais d'autres ont des ressources que nous, on n'a pas. Et comment on peut échanger et puis être plus forts tous ensemble pour mieux mutualiser, en effet. Peut-être répondre plus tard à des appels à projets de manière groupée pour que ça réponde sur l'ensemble du DIWA. Ou bien simplement profiter de la richesse de chacun, chacune, et puis se rencontrer. Quoi. Puis que d'entre les vallées, on puisse un peu échanger, puisqu'il y a des points communs, des problèmes en commun, ou des solutions aussi à partager.
Et puis du coup, une implication plus proche.
Ouais, c'est ça qui est génial avec ce renouvellement, c'est que du coup, ça nous permet d'être en lien avec les autres espaces de vie sociale du DIWA, de se rencontrer, de faire du partage d'expérience, et de mieux travailler ensemble pour avoir un projet plus cohérent à l'ensemble du territoire.
Est-ce que vous vous êtes senti isolé, par exemple, en Val-d'Aucun? Ça te paraît important, ça, d'avoir cette relation?
Oui, ça paraît important, parce que quand on travaille sur des sujets qui, en fait, sont assez globaux, mais à une échelle très locale, on peut avoir tendance à être focalisé que sur notre petit territoire, et ça fait toujours du bien de s'ouvrir un petit peu à ce qui se passe ailleurs, et aussi de pouvoir s'entraider et s'accompagner comme le disait Cora, sur par exemple des plus grosses demandes de financement pour avoir un projet plus cohérent à l'échelle de tout le DIWA.
Et puis, je dirais au niveau politique, à continuer à fonder, à mettre en commun nos valeurs, nos visions aussi pour le territoire, et puis que des adhérents qui sont militants puissent gagner en puissance en se mettant aux côtés d'autres. C'est un peu ce qu'on a constaté sur la rencontre là qu'on a eue le 6 mai. On entendra tout à l'heure les personnes s'exprimer, on verra un petit peu ce qui en ressort. Mais en tout cas, on a senti cette dynamique d'avoir une vision commune, contribuer à la démocratie, s'exprimer sur le territoire ensemble en tant qu'habitants et trouver une place. Donc notre mission à nous tous, là, les EVS, l'espace social, c'est ça, c'est donner une place aux habitants dans la construction du territoire.
Et aller les chercher beaucoup.
Et aller les chercher. On va voir que tout ça, du coup, se décline en multiples actions.
Qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière émission qu'on a fait ensemble, Cora?
Depuis la dernière émission, donc la dernière fois, on était dans le lancement de nos commissions, donc les grands thèmes, l'entraide, le pouvoir d'agir, le logement, l'accès aux droits, la mobilité, le sport, la culture, l'éducation, tout ça se lançait avec un groupe des différents partenaires impliqués dans ces commissions thématiques. Et puis, déjà, toutes se sont réunies une fois, deux fois, quatre fois pour certaines. Certaines ont déjà bien avancé à construire un plan d'action sur leur thème pour aller interroger les habitants. D'autres moins. Et en fait, là, on a eu un gros temps de rencontre nous a permis de croiser un peu où on en était et puis nos analyses. Donc, cette rencontre des commissions qui s'est passée le 6 mai. On a vu qu'on partageait pas mal d'intentions, pas mal de sujets en commun. Et donc là, le but maintenant, on passe à l'étape d'après qui est à la fois continuer à un peu affiner notre méthode de recherche, en étant un peu plus cohérents ensemble, éviter qu'on aille interroger 100 fois les habitants sur 2 sujets, essayer de se grouper un peu et pas solliciter trop les gens à multiples reprises, essayer d'être en bonne intelligence là-dessus. Et puis, on ouvre encore les cercles. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait fait un choix qui était pour le lancement. On s'est plutôt réunis avec des personnes ressources, des partenaires qui étaient déjà un petit peu en connaissance des sujets qu'on traitait, pour faire une première analyse de données statistiques, etc. Et là, on entre dans la phase où, ça y est, on va construire avec les habitants, on va demander les avis, on va ouvrir nos cercles, et donc on va gagner un peu en richesse encore, on va complexifier encore un peu les analyses, mais ça va être... Donc c'est une deuxième phase d'ouverture, je dirais.
Et donc cette première phase était plutôt entre professionnels, en fait?
Ouais, on était entre partenaires du DIWA, mais c'est ça qui était aussi intéressant, c'est que moi, mon sentiment, c'est que ces commissions, elles sont un petit peu sorties aussi. C'était des espaces de discussion et de réflexion sur des sujets cruciaux, mais des sujets qui sont partagés avec différents partenaires du territoire. Et en fait, nous, les EVS, on était à l'initiative, mais ça regroupait plein d'autres partenaires et ça permettait de faire un peu corps et de peut-être pousser certains sujets. Notamment politiquement sur
Creuser un peu pour, parce que ça ne servait à rien. On a assumé cette démarche aussi de ne pas avoir ouvert tout de suite au tout venant, parce qu'en fait il y a des expertises, il y a des gens qui sont concernés, qui ont déjà des données, et bien sûr il faut qu'on se décale, hein, qu'on sache faire le pas de côté, qu'on sache s'auto-critiquer, etc., enfin se faire critiquer ou continuer à avancer, mais en même temps il ne fallait pas repartir d'un point zéro, alors qu'en fait en vérité il y a déjà beaucoup de choses qui sont élaborées, co-construites avec des acteurs locaux.
Donc on voulait
partir de l'existant et passer à un stade d'après.
Et ça correspond réellement à ce qui... Je veux dire, les professionnels ne sont pas désaxés.
Eh bien, on va le voir. On va le voir maintenant qu'on va aller croiser un peu avec les paroles d'habitants. On va voir, est-ce qu'on cherche quelque chose où on est complètement à côté de la plaque, ou est-ce que vraiment, en fait, on répond et on est dans la lignée et on va préciser encore les choses, quoi.
Ouais, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment l'occasion d'aller faire du recueil de paroles, aller rencontrer directement les habitants de nos villages, échanger avec eux sur leurs besoins, mais aussi sur ce qu'ils ont envie de faire pour le territoire, là où identifier où est-ce qu'ils peuvent et ils veulent s'engager. Et puis c'est aussi, surtout, l'occasion d'aller à la rencontre de personnes avec qui on n'a pas forcément beaucoup de contact, et du coup de faire du lien vis-à-vis de ces personnes.
Est-ce que du coup, il faut forcément renouveler ces projets pour que tous les 4 ans, on retourne voir les gens ?
Nous, au quotidien, on est quand même en contact des habitants, de par...
Tu disais certains, finalement, non, du tout.
Oui, tout à fait. Certains, finalement, non. Mais en même temps, avec nos actions, là, on est en train de développer des nouveaux partenariats. Je pense notamment avec le comité des fêtes de Saint-Julien-en-Quin, qui nous permet du coup de renforcer, de resserrer les liens avec des habitants avec qui on n'avait pas forcément beaucoup de contacts. Donc ça se fait aussi quotidiennement sur le terrain, via nos événements festifs ou nos animations, que les liens se resserrent et se créent.
Et vous savez pourquoi ils ne viennent pas, au départ ?
Ça peut être un défaut de communication de notre part. On a aussi identifié le fait qu'il faut faire attention au langage qu'on utilise, qui ne parle pas forcément à tout le monde. Est-ce que les projets qu'on développe répondent aux besoins de l'ensemble des habitants ? Ça, c'est quelque chose qu'on questionne beaucoup. Et d'où ce diagnostic aussi, pour aller identifier s'il y a des besoins nouveaux, ou en tout cas qu'on n'avait pas identifié jusque-là, et pour qu'on puisse rectifier si certains de nos projets y répondent pas à l'ensemble des habitants.
Et ça, on peut le vérifier assez vite qu'un projet ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y a personne qui vient.
Après, un projet, il peut très bien fonctionner, mais il va y avoir toujours un même petit groupe d'habitants qui va s'y impliquer. Et du coup, ce projet va avoir du sens pour ces habitants-là, mais pas forcément avoir du sens pour d'autres habitants. Et nous, c'est vraiment important de pouvoir proposer une palette de thématiques et de projets qui puissent au moins parler, qu'il y en ait un qui puisse au moins parler à chacun.
Du coup, c'est un peu un risque contre lequel chacune des structures lutte, c'est-à-dire de ne pas être dans sa tour d'ivoire et uniquement avec le même public.
On construit au fil du temps. Après, il y a des choses qui mettent en effet du temps à s'imposer comme prioritaires, alors qu'on les a entendues Et puis bah, sortir de ses zones de confort, de ses habitudes, construire, c'est difficile en fait pour tous. Et puis dans les assos, c'est pareil. Mais justement, enfin, ça nous oblige à venir bien retendre l'oreille et se dire attention, en fait, c'est un sujet. Je prends un exemple concret qui va revenir un petit peu au fil peut-être de l'interview, mais sur la question de logement, par exemple. En 2014, on fait notre renouvellement de projets sociaux, on fait des questionnaires, à ce moment-là, plutôt des questionnaires répandus un peu de partout dans le DIWA. Ce qui ressort énormément, c'est l'urgence d'améliorer les conditions d'habitat dans le DIWA pour beaucoup de gens. Et puis bah, nous, centre social, à ce moment-là, on se dit « Ouais, mais comment on prend une place là-dessus ? Le logement, c'est pas nous. L'urbanisme, la rénovation des logements, les logements sociaux, tout ça, mais nous, on n'est pas des spécialistes là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir ? On ne fait pas grand-chose. 2018, ça revient encore. Là, nous, on entend, parce qu'on est directement au contact et tout ça. On entend ces problèmes-là, on le sait et tout. Donc cette fois-ci, on se dit « Ok, nous, on prend notre place de centre social là-dessus. Quelle est-elle ? » On prend le temps de réfléchir avec des partenaires, des habitants qui se sont impliqués là-dessus. On se dit « Ok, nous, notre angle, et c'est la conscientisation déjà des personnes, qu'elles ont des droits, qu'elles peuvent les faire valoir, qu'il y a des dispositifs qui existent, des recours aux droits, des structures qui accompagnent. » Et donc, on a construit, en mode un peu éducation populaire, des articles de journaux sur une série journalistique avec un personnage, une histoire de quelqu'un qui arrive dans le DIWA et puis qui doit s'installer, et qui galère et qui passe un peu par toutes les phases de galère, la passoire thermique, le loyer trop cher, la difficulté d'accéder à la propriété, enfin un ensemble de choses.
Et pas de crèche, pas de transport.
Voilà, à la fin, ça finit un peu sur les crèches, etc. Donc en fait, nous, on prend à ce moment-là notre angle de centre social pour aller trouver notre place là-dedans et agiter un peu les questions. Ça ne plaît pas forcément, on est là, oh là là, mais qu'est-ce que vous venez nous mettre le bazar de nommer les problèmes ? Bah oui, mais c'est notre rôle justement. Donc on vient relayer déjà la parole pour faire un plaidoyer, amener de l'information aux habitants, relayer les ressources locales. On répond à une autre demande de notre place, c'est sur l'habitat intergénérationnel, par exemple. On se dit, bon, bah, alors, ok, qui le fait ? Alors, ça prend un petit temps de savoir qui va porter ce truc-là. Au bout d'un moment, ça n'avance pas. Nous, on prend, on y va et on lance, en fait. Et du coup, cet habitat intergénérationnel, il est en train de se développer plus, là, sur le DIWA, depuis un an. Donc, on trouve notre place là-dedans. Notre autre place, dans le logement, c'est aussi de dire, bah, nous, on a une capacité d'être, on n'est jamais neutre, selon moi, mais n'empêche, on va mettre autour de la table et on va faciliter aussi un petit peu des choses. Alors, sans prendre la place de personne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la communauté de communes qui est en responsabilité des questions de logement, on travaille en collaboration et nous, on essaye de trouver notre place. Là, dans le cadre du renouvellement, on organise du coup un temps avec les différents acteurs logement pour dire en fait, il faut qu'on recueille la parole des habitants encore, mais aussi au-delà de recueillir les problèmes, qu'on passe à une phase un peu initiative-action. Les collectivités ont leur place, mettent en place des choses pour répondre aux problèmes de logement. Nous aussi, habitants, en fait, on a plein d'idées. J'ai croisé encore à l'Assemblée Générale là, de l'Espace Social une personne qui me disait « Ah, mais nous, on a une super idée, on voudrait faire de la rénovation citoyenne dans les logements qui sont un petit peu insalubres, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. » Je dis « Bah, viens. » Donc, on a un grand forum ouvert qui va se tenir le 11 juin à la salle polyvalente toute la journée pour justement permettre à tous ceux qui ont des idées, des coups de gueule, des initiatives, des envies de monter des projets sur les questions de logement pour améliorer l'habitat dans le DIWA, à venir, à se mettre en lien et du coup à s'exprimer en fait et qu'on construise. Donc nous, on est un peu des fois l'agitateur, le dérangeur et le porteur de parole.
Et c'est bien reçu par le politique ?
Bah, il faut souvent qu'on clarifie, attention, quelle est votre place, faut pas brouiller les infos, si vous êtes trop proactif, ça va trop vite, des choses comme ça. Donc il faut souvent qu'on se concerte, qu'on discute pour bien clarifier ce qu'on fait parce que voilà. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt on a quand même dans le DIWA l'envie que les choses bougent. Les élus ont envie que ça bouge, tout le monde a envie que ça bouge. Donc à un moment, c'est bien reçu, ouais, je dirais.
Bon, ben on va y croire.
On va y croire.
Tu nous faisais l'historique, ça fait quand même vraiment un moment que ça traîne et ça devient...
On ne va pas répondre à tout, mais on va continuer à agiter.
On ne va pas attendre que tout brûle ou que tout s'écroule.
Non.
Vous voulez qu'on découvre un petit coup ce que nous a fait Vincent justement dans le cadre de ce 6 mai où il allait vous rencontrer dans cette fameuse commission ?
Donc en effet, on était presque une quarantaine de personnes. Donc là, on a invité toutes les personnes qui s'étaient déjà engagées sur le renouvellement depuis le début de l'année avec nous.
Est-ce que tu voudrais les citer? Parce que je ne suis pas sûr qu'ils passent tous dans ce
micro-trottoir. Alors sur cette rencontre, on a des personnes, donc, que ce soit des administrateurs, des salariés, des EVS, l'espace de vie sociaux et de l'espace social, et des partenaires, des habitants. Donc on a par exemple le comptoir des lettres, la CLCV qui aide sur les questions de logement. On va avoir France Service qui était là en force avec toute l'équipe de France Service, la Comcom, on a eu des projets de mobilité solidaire avec quelques bénévoles de la mobilité solidaire. Il y avait encore les jardins nourriciers qui étaient présents. On avait la ville de Die et il y avait une personne aussi du pôle rénovation logement, le pôle social de la ville de Die. Des adhérents bénévoles, que ce soit dans des ateliers ABC, des ateliers de mobilité, des administrateurs.
Et puis des élus, des mairies sur lesquelles on est implanté.
Voilà, donc cette rencontre, en fait, elle a permis, on a découpé en plusieurs temps, il y a eu un temps plutôt de faire connaissance rapidement, un peu d'accueil, convivialité, repérer qui est là, qui est qui. Puis on a eu un temps d'information sur chaque commission, où elle en est, qu'est-ce qu'elle a constaté, qu'est-ce qu'elle cherche à trouver comme info, qu'est-ce qui lui manque, est-ce qu'elle a déjà des outils prévus ou pas. Et après, on s'est mis en cercle pour discuter, à différents cercles de discussion sur où c'est que ça converge, qu'est-ce qui nous semble intéressant là-dedans, en quoi on contribue à construire le territoire ensemble. Et puis là, maintenant, il y a plein de travail encore derrière cette matière, mais il y a des choses qui ressortent très fort. On va voir ce que disent d'abord les habitants, puis on pourra peut-être commenter après.
Ben ouais, est-ce que tu sais à quel moment est arrivé Vincent dans cette histoire ?
Vincent est arrivé après la séquence d'information, il me semble, ou juste en fin de séquence d'info de toutes les commissions.
Ben on écoute cette première partie et on revient réagir après.
Vendredi 6 mai 2022, espace social du Diwa, place de l'évêché à Die. Il est au moins bientôt 17h. Olivier Royer, vous vouliez me dire quelque chose?
Là, il vient de se passer la première partie de ce qu'on a appelé la fête des commissions. Actuellement, on a une dizaine de commissions thématiques qui se réunissent depuis le mois de février et qui vont nous permettre en fait d'aller interroger toutes les thématiques sur lesquelles on veut travailler, nous l'espace social, mais aussi les espaces de vie sociaux qui renouvellent leur projet social dans le but d'avoir l'agrément de la CAF pour être financé pour nos actions. Et donc ça, c'est quelque chose qui se passe tous les 4 ans. Habituellement, on le fait tous dans notre coin. Et là, en fait, on a décidé de le faire en groupe. Donc on est nous, les Lucioles de Lustacraute, la Corderie et l'EVS de Valdequin, à être tous ensemble dans ce renouvellement. Et donc on s'enrichit les uns les autres de ce qu'on fait dans notre coin, de ce qu'on fait collectivement, de ce que nous apportent les habitants bénévoles qui sont dans nos commissions.
Qu'est-ce que à Valdequin, sur quoi vous avez travaillé ces dernières années, peut-être principalement?
Alors on avait trois axes.
Marie Lopez, Ilazo, EVS, Valdequin.
Du coup, il y avait un axe aide au droit et lien intergénérationnel. Donc c'est notamment en faisant des rendez-vous de médiation numérique et en luttant contre la fracture numérique, donc c'est-à-dire ne pas renoncer à ses droits parce qu'on n'est pas en capacité de faire ses démarches administratives ou parce qu'on n'a pas accès à du matériel. Il y a un autre axe dans notre projet social qui était plutôt autour du lien social, lutter contre l'isolement, faire du lien entre habitants, quelle que soit la tranche d'âge, la culture ou depuis combien de temps on est dans la vallée. Puis la troisième axe, c'était accompagner vers la transition et la résilience du territoire. Donc là, c'est avec des actions plus transition énergétique et aussi alimentaire.
Je viens observer un peu comment ça se passe un renouvellement de projet social collectif dans le Diwa.
Aurélie, Fédération des centres sociaux de la Drôme.
Et je viens aussi apporter une petite touche des banquets citoyens. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que ça, les banquets citoyens ?
Les banquets citoyens, c'est quand des habitants, et ici, des acteurs du territoire qui sont aussi des habitants et des citoyens, qui se réunissent et qui abordent des problématiques locales, des sujets de société, et qu'ils font dans la joie, la convivialité. Et c'est ça, un banquet citoyen, finalement.
Alors moi je suis Yann Chevalier, je travaille au pôle social de la ville de Die, du coup, c'est-à-dire le CCAS, c'est la politique d'action sociale des élus de la ville, et l'accueil de jour de Die, et puis d'autres dispositifs qui sont en cours de construction. Donc on essaye d'être en soutien auprès des habitants de la ville de Die, mais aussi des personnes un peu fragiles, plus largement du territoire.
Quels sont vos projets là pour les années à venir ?
Notre grande mobilisation du moment, c'est de continuer à solliciter les services publics.
Anne Boucard, France Service.
Qui sont nos partenaires, qui sont la CAF, la CPAM, Pôle emploi, les impôts, pour qu'ils continuent d'être là avec nous et surtout avec les usagers.
Je suis là pour voir un petit peu ce qui se passe sur le territoire, quels liens on peut créer, comment on s'assemble déjà pour aller observer ce qui se passe, les besoins des uns des autres et collectivement comment on peut trouver des leviers aux problématiques rencontrées par les habitants.
Amélie Sou, le comptoir des lettres. Animation socio-éducative, quartier Cocoz à Die.
Avec le comptoir des lettres, on a décidé de faire un diagnostic focus sur le pouvoir d'agir des habitants de ce quartier. Donc, on va commencer avec un outil qui s'appelle Récit de vie. Donc, l'idée, c'est d'aller vers les habitants et recueillir effectivement leurs paroles, voir pour eux qu'est-ce que c'est que de vivre à Cocoz concrètement. Et par ce biais-là, on va avoir aussi justement de la donnée sur les problématiques éventuelles qu'ils pourraient rencontrer, mais aussi les forces qu'ils ont pu mobiliser pour faire avancer et progresser la vie de quartier.
Je crois qu'on se retrouvera sur les ondes de RDY, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
L'activité socio-culturelle et sportive, alors comment elle se porte dans le DIY ?
Eh bien, je crois qu'elle se porte très bien dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs.
Marie Paccard-Rambaud, coordinatrice des activités culturelles et sportives à l'ESCDD.
Qu'il y a énormément d'activités sportives proposées, qu'il y a énormément d'associations culturelles, de mouvements culturels, d'acteurs culturels, d'artistes, de compagnies, d'élan citoyens qui veulent développer la culture, et il y a beaucoup beaucoup de choses, et maintenant la question c'est de se dire comment peut-être on peut joindre la culture au sport, le sport à la culture, comment on peut quand même amener la culture et le sport aux jeunes, aux enfants, aux adultes qui sont malgré tout encore trop éloignés de ces activités là qui, pour moi, participe à l'épanouissement et au bien-être et au lien social.
Vous dites qu'il y a encore trop de gens éloignés de tout ça et qui sont peut-être... qui vivent comment, du coup ? Vous savez un peu, vous les connaissez ?
Eh bien, certains un peu, oui. Je suis allée rencontrer des personnes qui soit ne se sentent pas concernées par la culture parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas pour eux, qu'ils ne sont pas, par exemple, sur la question du théâtre, et j'entends des gens qui me disent « mais le théâtre, c'est pour d'autres gens, c'est pas pour moi », ou des jeunes qui pensent que certains milieux culturels, certaines activités culturelles ne sont pas pour eux, parce que dans l'air du temps, c'est pas pour eux. Inversement, des gens des milieux ruraux qui pensent qu'aller au cinéma ou venir faire de la danse ou faire un débat philo dans un café, eh bien, c'est pas leur place, alors que bien sûr que si. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est peut-être de permettre aux gens de réaliser que ces petits espaces de créativité, où on travaille l'imaginaire, où on découvre la rêverie, où on est ensemble, on pense autrement, on regarde, on écoute, on fait travailler nos sens, on est dans l'émotion, eh bien, que ça, ils y ont droit, évidemment, et que c'est autant pour eux, enfin, c'est pour chacun, chacune, tout ça.
Et le sport, alors, dans tout ça, il y a encore des gens qui n'accèdent pas à l'activité sportive ?
Alors, là encore, il y a des clivages. Il y a les sports populaires et puis il y a les autres. Alors, le foot, voilà, c'est pour les enfants des quartiers. Et puis, par contre, les sports, l'aïkido, la capoeira, le tennis, l'équitation, c'est pour d'autres. Et donc, voilà, j'aimerais bien aller interroger les partenaires sportifs pour questionner ça. Je vais aller questionner les habitants pour aller comprendre ce qui se joue à cet endroit-là. Et j'aimerais bien qu'ensemble, on puisse rendre plus accessibles toutes les activités sportives à tous les publics, quelles que soient leurs conditions de ressources, quelles que soient leur état d'esprit, quelles que soient leur situation socio-professionnelle ou leur milieu de vie, voilà. Et de se dire que le foot, c'est pour tous les enfants et que tout comme l'aïkido, tout comme. Et qu'en fait, on choisit son sport non pas en fonction de son éducation ou de ses origines ou de ses a priori, mais on le choisit en fonction de ses désirs et de ses envies. Voilà. Et donc, il y a dans tout ça, que ce soit au niveau de la culture comme au niveau du sport, il y a quand même la question pécuniaire. Qui est réel, hein, puisque on parle d'activités qui sont quand même payantes, plus ou moins onéreuses. Et donc, on va aussi, notre commission, on va aussi aller se poser cette question-là. C'est comment on peut rendre ces activités-là plus accessibles, y compris pour les gens qui sont les plus démunis.
Forcément, la question de la mobilité se pose quand on a des enfants. Voilà.
Et merci Vincent pour cette première partie de micro-trottoir à la sortie de ce fête des commissions, c'est ça que j'ai entendu comme terme. Vous aviez des réactions tout de suite, peut-être Marie-Flore, par rapport à ce que vous avez écouté, Cora, des choses à rajouter, à dire ?
Non, je pense qu'en effet, en tant qu'acteur, on a des intuitions, il y a des choses qu'on sait, et là le but c'est qu'on aille les vérifier en fait. Et c'est complexe, hein, parce que tu ne peux pas interroger tout le monde, une participation enfin, de tous sur tout, c'est un peu compliqué quand même. Donc c'est d'où le fait qu'on doit penser ensemble à comment on va aller enquêter. Là, nous, la réflexion qu'on se faisait, c'est justement culture et sport, bah, on sait que ça va être transversal avec plein de choses, parce que c'est un bon moyen de mobiliser les gens, et de s'épanouir, tout ça, quoi, et d'être bien, de se sentir bien aussi, que d'être en lien, de se nourrir de la culture, d'en créer, d'être dedans, etc. Je m'interroge justement sur comment on va réussir justement bien à mettre toutes nos forces là en commun pour ça. Je pense qu'on a pas mal de questions à se poser encore.
Sur cette thématique-là, la question peut-être simplement de la synchronisation de l'ensemble des événements qui se passent permettrait déjà... qui est une meilleure distribution. C'était un peu mis par rapport à l'éloignement de certaines personnes, mais en fait, nous, on se rend compte qu'il y a dans chaque village un certain nombre d'associations, oui. Ce qui est assez hallucinant, mais que les gens ne sont pas forcément au courant et que beaucoup d'événements se chevauchent, par exemple, culturellement parlant, alors qu'il y a une offre énorme.
Bah là, en tout cas, la vigie qu'on a, à la fois, on va sur cette année, il y a des choses qui sont créées par nous, des temps qui sont organisés, qu'on va animer et tout. Mais quand même, le mot d'ordre un peu qu'on s'est donné, c'est se dire allons vers là où il y a déjà des choses, on ne va pas encore créer et superposer. Allons voir la fête, les fêtes qui s'organisent, les brocantes, les différentes choses qui sont portées par les gens et où les gens sont là. Et on n'a pas besoin de forcément nous tout porter, tout organiser en fait. Donc on a fait une grande liste, un gros agenda commun, mais on l'a fait, en fait on a commencé, on a fait déjà une grande, alors c'est pas un agenda qui va là pour l'instant être, comment dire, il est pas designé pour être rendu visible, c'est pas Ensemble ici et tout ça quoi, c'est juste on a listé l'ensemble de, et on l'élabore au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe sur le territoire, où c'est qu'on peut aller, ah bah il y a le marché aux fleurs à Luce-la-Croix-Haute, ah bah tous les, alors il y a les temps de marché qu'on connaît, mais après il peut y avoir compétition de pétanque, peu importe quoi, donc on essaye là de lister pour que les gens des commissions puissent aller sur ces temps-là et pas toujours inventer.
Mais tu citais Ensemble ici, et je sais vraiment pas pour dire du mal de cette initiative, mais elle semble moyennement prendre finalement. Il n'y a pas tant de gens qui postent dessus, il y a une démarche volontariste qui du coup n'est pas exactement faite, et pourtant... On se rend compte là, à la fin de justement de cette ce passage, ce premier passage nous proposé par Vincent, que c'est quand même une problématique, mais simplement parce qu'il y a pas, on est au courant en fait.
Et ben en fait, voilà, ce qui commence à ressortir, notamment de la rencontre des commissions, il y a cette histoire de visibilité. Des initiatives, des acteurs. Notamment nous, notre prisme un peu, c'est il y a culture, sport, tout ça, mais il y a aussi l'entraide. Les endroits où tu peux t'engager en tant que bénévole, tu as envie de faire des choses, il y a des initiatives, il y a des gens qui les portent, qui ont besoin de force vive. En fait, on a vraiment, dans les constats, là, ce qui ressort aussi, on a un territoire super dynamique, il y a plein d'initiatives, mais on a aussi plein de gens qui cherchent des bénévoles, des assos qui ne se renouvellent pas, des CA qui manquent de force vive et tout ça. On est nombreux à le vivre aussi. Donc là, c'est dans les constats qu'on fait. Donc il y a à la fois les forces vives qui... comment elles se mettent en lien, comment on repère les espaces où on peut s'engager, et puis qu'est-ce qui se fait, comment on est au courant, comment on croise un peu les infos, et pas en cercle. On sait sur le DIWA aussi ce qui se passe, mais souvent c'est par cercle, entre soi, et ça communique mal. Donc on est en train de faire ce constat, on va dire. Donc on va sans doute avoir quelque chose qui se dirige autour de ça. Mais là, cette année, on n'est pas dans le temps des réponses, en fait. On est dans le temps de comprendre, constater, pour mieux justement se donner des nouvelles lignées. Et je pense que cette histoire de visibilité, ça fait un moment que ça sort. Encore une fois, cette fois-ci, on va peut-être y aller.
On a couplé aussi ce travail d'enquête avec la saison culturelle de Val-de-Quin, justement pour ne pas superposer plein de dates. Du coup, l'idée, c'est d'avoir des moments festifs et conviviaux avec des animations, des banquets, enfin un banquet et puis un concert par exemple, on a une conférence gesticulée qui est prévue avec ce travail d'aller questionner, rencontrer les habitants en faisant du porte-à-porte à l'aide d'un questionnaire et puis des questionnaires aussi qui sont élaborés dans le cadre des commissions. Et du coup, on a plusieurs dates. On a eu le 1er mai, là, on a fait une animation avec la brocante à Saint-Julien-en-Quin, en partenariat avec le comité des fêtes de Saint-Julien-en-Quin. Après, on a une autre date, le 21 mai, qui va être à Marignac. Donc là, avec un focus sur les questions liées à la parentalité et l'enfance. Et ensuite, on a le 26 juin, qui c'est une date à Saint-Andéol-en-Quin, avec un focus sur les questions de mobilité durable, avec une conférence gesticulée du coup sur le thème de l'écologie. On a une autre date, le 20 juillet à Sainte-Croix, et là l'idée c'est d'aller questionner la thématique de l'alimentation durable dans la vallée et dans le DIWA. Et ensuite le 13 août, il y aura un événement qui sera à Vacher-en-Quin, et là ce sera autour de la thématique de la culture. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un élan un peu collectif avec aussi les différentes commissions et les habitants, en réfléchissant ensemble sur ces sujets qui sont cruciaux, mais toujours dans la convivialité et le vivre ensemble.
Et quelque chose d'assez fort que ta collègue a dit tout à l'heure dans le micro-trottoir, cette question d'isolement en Vallée de Quin, mais qui, pour moi, donne l'impression de produire de l'autonomie. Comment est-ce que vous suivez ça ?
Oui, c'est sûr qu'en Vallée de Quin, on est pour Saint-Julien-en-Quin, on est à peu près 25 minutes en voiture de Die. Donc c'est vrai que ça, il y a quand même un isolement qui est assez fort. Mais en même temps, ça nous pousse à nous entraider, à développer nos projets, par exemple mobilité durable, qui consiste en l'achat de vélos électriques et d'une voiture qui sont partagés du coup entre tous les adhérents. Donc voilà, pour favoriser le déplacement des habitants tout en soutenant l'environnement et la transition énergétique. Après, on a également des projets sur l'alimentation durable, sur comment transformer par exemple les produits locaux de la vallée, issus par exemple des invendus des producteurs, comment les transformer sur des denrées alimentaires qu'on puisse...
C'est marrant, je recevais les jardins nourriciers il n'y a pas très longtemps et on parlait justement d'un labo de transfo. Alors vous allez peut-être être les premiers à l'avoir, c'est ça?
Oui, totalement. Bah, on a beaucoup travaillé avec les jardins nourriciers, qui est aussi une association de la vallée, sur le projet de maraîchage coopératif. Et oui, carrément, il y a vraiment... Enfin, l'alimentation, c'est un sujet qui est énorme et qui est vraiment transversal et pivot sur la transition écologique. Et clairement, le labo de transfo, ça peut être une des actions qui peut être portée dans la vallée. Ouais.
À suivre, j'entendais aussi une personne de la Fédération des centres sociaux qui venait là pour observer. Quel sens ça a de venir observer ce que vous faites?
Au niveau national, les centres sociaux sont regroupés en fédération et sont un interlocuteur aussi pour l'État sur différents thématiques. Et donc, mine de rien, c'est encore des structures qui sont assez anciennes, mais qui du coup portent des valeurs d'éducation populaire, de lien social, d'animation, d'intergénérationnel, etc. On est sur cet organe social qui est un interlocuteur à un niveau national. Et du coup, la Fédé, elle a besoin, elle aussi, de se nourrir du vivant, du concret, de ce qui se passe au réel dans nos différents territoires de France. Il se trouve que sur la Drôme, on a une salariée, donc Aurélie Falampe, qu'on entendait, qui est aussi spécialisée sur les questions de transition énergétique et du coup, qui vient sous cet angle-là aussi interroger et soutenir les différents centres sociaux du territoire. Elle était présente ce 6 mai, plutôt dans la dynamique des banquets citoyens, comme elle le disait, à savoir recueillir des données sur les territoires pour voir comment les gens se mettent en action et participent à construire, même au niveau politique, ou comment ils s'impliquent sur les territoires et comment on peut porter ça un peu plus largement. C'est un peu nébuleux peut-être, ça paraît un peu vague. Bon, parfois, ça l'est aussi, il faut reconnaître. Mais en fait, c'est comment... Là, il était question juste que le DIWA contribue à sa façon à cette dynamique nationale des centres sociaux.
Marie-Fleur, tu avais rajouté ?
Oui, c'est vrai qu'on travaille beaucoup à la Fédération des centres sociaux. Nos deux structures, on est adhérents de cette fédération. Et ils nous accompagnent aussi dans nos projets en lien avec la transition écologique. Et c'est vraiment un super soutien que de les avoir avec nous.
On s'envoie le deuxième petit montage de Vincent.
Allez.
C'est là. Oh, mais vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous travaillons en groupe. On va parler, essayer de faire converger toutes les problématiques, toutes les thématiques qui ont émergé des différentes commissions, des 9 commissions.
Sandrine Albanaise, EVS, le 101.7.
Et en fait, on se mélange tous et on va essayer de trouver des champs communs ou des divergences. Voilà. Merci.
Attendez, juste on peut se mettre là, comme ça je m'éloigne un peu des gens qui parlent. Qui êtes-vous, s'il vous plaît?
Alors moi je suis Cathy, je suis bénévole à l'ESCDD auprès des enfants après l'école le mardi, donc aux classes. C'est contrat local d'accompagnement scolaire, donc autour des jeux coopératifs. Voilà, on est une petite équipe, alors il y a un salarié, des bénévoles. Donc pour permettre aux enfants qui sont... peut-être en difficulté à l'école, d'avoir d'autres moments plus agréables et en même temps continuant à découvrir des choses, parler, communiquer, échanger avec des amis. Voilà, et là j'ai fait partie de la commission éducation.
Alors quel est le chantier en cours, le chantier principal pour ce qui est de l'éducation?
Alors le chantier principal, ça serait de présenter des questionnaires aux parents qui sont dans le DIWA pour faire remonter un petit peu les manques, les difficultés, peut-être ce qui va bien aussi. Donc il y a un questionnaire qui va être lancé, qui va être proposé à grande échelle pour tous les parents.
Bon, ça se passe bien votre journée?
Eh ben ouais, moi ça va, je trouve que ça se passe bien. Enfin, ça a bien démarré. Après, on a eu une phase d'information qui était quand même un peu dense. Donc je pense que ça fait beaucoup d'infos, enfin beaucoup de choses qu'il faut traiter dans sa tête et tout.
Coraline Monod, agent de développement social.
Aujourd'hui, et là, on pose la question des passerelles, des ponts, des convergences entre les thèmes. Et c'est pas si simple, je pense. L'exercice n'est pas si simple. Donc, on va voir ce qui en ressort. En tout cas, même si c'est pas simple, ben, c'était le but aussi de se mettre au moins en contact, même si c'est pas simple. Donc, voilà.
Il paraît que ça avance quand ça résiste.
Ouais, c'est ça. C'est, je pense, voilà, nos résistances, elles veulent dire quelque chose aussi, donc on va voir. Mais en même temps, quand je regarde les gens, ils ont tous des remarques, des idées, des choses qui tiennent à cœur. Donc j'ai plutôt confiance que nos petits feux intérieurs feront des, des grands feux. On va éviter de foutre le feu partout, donc voilà.
Merci.
Qui êtes-vous ?
Je suis Martine Gentilly. Je fais partie de deux associations. Une association de la corderie. Et puis, je suis salariée de l'espace social sur un autre projet. C'est un projet de mise en lien pour faire de la cohabitation entre des personnes qui ont de quoi... un appartement suffisamment grand pour héberger des personnes qui en ont besoin, qui n'en ont pas momentanément, parce que en fait je travaille avec des gens qui sont soit en formation, soit en stage, soit qui ont un CDD dans le DIWA, mais après qui sont amenés à partir. C'est que du temporaire et de l'hébergement solidaire aussi, temporaire et solidaire.
Alors, de l'hébergement solidaire, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que l'argent n'est pas la première motivation pour ouvrir la porte de sa maison et accueillir des gens. C'est aussi le besoin de relation ou l'envie de relation avec les autres. C'est aussi mixer les âges. Ça peut être une personne âgée qui va accueillir un jeune. Voilà, c'est autre chose que l'argent, la première porte d'entrée.
Oui, je suis Marie-Josée Lepelletère et je fais partie de l'association CLCV, qui est une association de consommateurs. CLCV, ça signifie consommation, logement et cadre de vie. Donc on reçoit chaque semaine à une permanence, enfin quand les gens le souhaitent, pour des personnes qui souhaitent pouvoir avoir une aide concernant des problèmes qu'ils ont dans leur location. Voilà, donc... Il y a des courriers qui sont faits, souvent propriétaires, voilà, ça se tourne autour de ça. Enfin, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de logements qui sont à rénover. Hein. Ouais. Et donc, le groupe CLCV participe aussi à un groupe de commission aussi avec la mairie autour de l'habitat. Voilà, c'est une participation. Et je m'occupe aussi de... Je suis aussi bénévole à une association qui s'appelle Mobisol actuellement pour le déplacement des personnes d'un endroit à un autre. Souvent, c'est des personnes du 3e ou 4e âge pour se rendre de leur lieu d'habitation jusqu'au centre de santé. Voilà. Voilà. Ça fonctionne pas mal.
Donc tout plein d'activités, tout plein d'actions. C'est un temps plein là que vous avez.
Non, pas du tout. Mais c'est vrai que ça prend bien du temps, oui. Également à la corderie parfois.
Et alors là, en quelques mots, comment vous résumeriez ce que vous venez de me dire ?
La volonté de rassembler.
Il est 18h et je suis toujours à l'espace social, mais là, je m'en vais. Allez, salut.
Eh bien, merci Vincent.
Merci Vincent.
Merci.
Des réactions ?
Je crois qu'on voit toutes ces personnes qui s'engagent, qui se bougent, qui passent du temps. Et voilà, beaucoup de femmes, nous disait Vincent tout à l'heure, en effet, des femmes aussi âgées, des personnes qui ont des convictions, qui ont envie de faire avancer les choses, quoi.
Pourquoi c'est bien. Beaucoup des femmes dans la fonction sociale ? J'avais envie de vous demander, par plus vous êtes
ouais,
de femmes.
Ouais. Oui, mais moi je vois dans les groupes que j'accompagne, que ce soit sur les quartiers, les associations, c'est beaucoup, beaucoup de femmes qui s'activent. Je pense qu'il y a une forme de... Comment ? Face à peut-être pas mal de difficultés vécues, parfois... Enfin, moi, je vois dans les cercles de personnes que j'accompagne, il y a aussi beaucoup de femmes seules avec enfants, mais qui sont pleines de ressources, de compétences, en fait, aussi, d'envie que ça change, d'envie de se bouger, d'envie d'avoir toute l'estime de soi et la fierté d'agir, d'avoir une place, en fait. Et je vois que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une reprise de pouvoir de pas mal de personnes et pas mal de femmes, du coup. Peut-être il y a ce rapport au pouvoir, déjà de soi-même, d'être soi. Et...
Mmh. Ouais, puis, je sais pas, on parle beaucoup de partage, de mutualisation, de coopération. On n'est pas du tout sur des aspects de compétition. Peut-être que ça parle aussi beaucoup aux gens qui viennent et qui sont des femmes.
Je sais pas, on n'a pas vraiment de réponse, mais c'est un constat.
Moi, j'avais un regard beaucoup plus sombre. Vas-y. Le patriarcat vous ayant forcé à ça et à être toujours...
Les gentils qui prennent soin.
Les gentils et qui prennent soin, alors du coup, ça se constate.
D'une certaine manière, peut-être, en effet, ouais. Il y a aussi des hommes. Hein,
mais je pense qu'il y a aussi la volonté de développer un nouveau système, un nouveau mode de fonctionnement basé sur la coopération et pas sur la compétition. Et ça, je pense qu'il y a, toutes ces assos, toutes ces initiatives, ça foisonne et ça teste, ça expérimente, ça réfléchit des nouveaux fonctionnements pour demain. Et ouais, je pense que là, il y a pas mal de femmes qui s'y retrouvent. Je pense que l'aspect coopération et non compétition, ça fait partie de.
Donc c'est une lutte féministe.
Je sais pas. J'ai pas vraiment de réponse, c'est un constat, je cherche, il se trouve que là...
On se la reposera alors.
On se la reposera et puis on pourra peut-être avoir une émission dédiée de toute façon sur ces questions de la place du féminisme dans nos structures, pourquoi pas, parce que là on a un nouveau groupe de femmes qui est en train de se constituer au niveau de l'espace social sur les questions justement de... Alors c'est encore en construction, donc je voudrais pas trop en dire, mais entre la question de l'égalité, du féminisme, ou de la place de chacun, chacune. Donc on vous en dira plus, mais il y a des choses qui bougent, des envies d'agir. On est dans une période quand même de forte émulation sociale, de convergence. C'est un peu le sujet en ce moment à plein de niveaux. Donc à suivre, à observer, à ressentir, à vivre.
Mais en tout cas, s'il y a des hommes qui veulent venir participer à tout ce qui se passe, bien sûr, on est très contents qu'il y ait plus aussi de répartition hommes-femmes dans nos structures et dans nos actions.
Le message est passé. on se quitte peut-être, Marie-Flore Cora, pour cette émission. Sur les prochains rendez-vous, toi, tu en as cité un paquet pour Val-de-Quin, mais donc ces rencontres aussi vers les habitants, là, il y a quelques rendez-vous aussi pour l'espace social.
Oui.
Donc, et puis les prochaines étapes.
Ouais, c'est ça. Donc le 11 juin, sur le forum ouvert logement à la salle polyvalente de Die, des actions parents-enfants dans les quartiers de Pluviane, Cocos, dans les villages de Lamotte, Chalancon, à Chabestan aussi, à Die. Alors j'ai pas toutes les dates là, malheureusement, je trouve plus ma
donnée,
mais vous les trouvez sur le site internet de l'espace social et aussi le site internet dédié au renouvellement que je vais remettre en avant un peu sur le site parce qu'on avait du mal à le trouver. Donc toutes ces dates où on va être vers les habitants pendant toute la période mai, juin, début, jusqu'à mi-juillet à peu près. Donc on va remettre sur le site, on va essayer de remettre ça un peu plus clairement. Après, les adhérents, les personnes via les écoles ou leur mairie reçoivent les infos directement. Et puis on se fixe un peu des balises, nous, pour la suite. Enfin, d'ailleurs, toute l'année, on s'est fixé ces points d'étape. Là, la prochaine, c'est donc là, on explore partout. On recueille encore de la donnée. Le 11 et 12 juillet, on va aller passer 2 jours dans la vallée de Quin avec toutes les personnes qui ont envie de venir cogiter avec nous encore sur la croisée des chemins, des thématiques et de comment cette fois-ci, on commence à faire émerger des vrais axes d'action concrètes. 11 et 12 juillet.
Donc ça sera l'occasion d'une prochaine...
Prochaine émission sans doute. Ensemble, à fait. On pourra faire le point à ce moment-là. Quels sont les axes qui commencent à... Les objectifs en commun ou différenciés qui émergent. Ensuite, l'été, on va un petit peu se détendre. Enfin, quoique Val-de-Quin, vous êtes à fond. Nous, on va se calmer un peu en août, à part avec l'accueil des enfants. Mais Val-de-Quin continue encore ses actions sur les villages. Et puis, on se retrouve à la rentrée à l'automne pour détendre restitution publique et festif sur Die, sur Lamotte, sur Luce-la-Croix-Haute et sur Sainte-Croix.
Le 15 octobre.
Voilà. Donc ça sera
les dates, on a déjà le concert programmé.
Parfait. Et voilà, et après bah nous on se lance dans des phases d'écriture sur novembre, décembre, janvier pour formaliser tout ça et faire valider au niveau de la CAF et de nos élus nos nouvelles directions.
Marie-Flore, toi tu avais cité toutes tes dates, elles sont disponibles où ?
Alors, elles sont disponibles sur le site internet de Val-de-Quin. On a aussi des affiches qui sont placardées surtout dans la vallée de Quin, mais peut-être qu'il y en a quelques-unes à Die. Et pour ceux qui ne sont pas encore adhérents à l'asso, on a une lettre d'info qui est toutes les deux semaines, qui permet d'avoir aussi toutes les dates de nos actions.
Et ben, merci à toutes les deux.
Merci.
Et à la prochaine dans l'écho de l'espace.